Interview.
Okay, då börjar vi.
L'interview du jour.
She was home, she was a swan. When she was out, she was a tiger. And a tiger in the wild is not tied to anyone. When she was lost, she was a toad. The day I found her on the road, I gave her water and a rose. And as she stretched, the sun rose. Go.
Ici Erdiwa et c'est l'heure de l'interview avec au studio Natalia Zamudio.
Bonjour.
Et face à vous, Marion Fontaine.
Bonjour.
Bonjour, vous deux. Vous êtes ici pour nous parler d'une exposition qui s'intitule Pierre de cœur. Ça se passe au Baraki, rue Camille Bufardel. L'exposition a commencé depuis le 21 février et se terminera donc le 15 mai 2025. Qu'est-ce qui vous a amené à exposer ensemble? Est-ce qu'il y a une idée de confrontation avec le hasard, avec l'eau, la couleur?
Alors, Natalia et moi sommes collègues d'atelier. On partage un atelier et on a déjà réalisé des expositions collectives ensemble. Et ouais. C'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien et qui nous a plu. On se répond dans nos travaux respectifs. Ouais. Alors, pour Natalia, c'est la peinture, c'est la teinture végétale, pardon, et pour moi, c'est la peinture.
Et bien qu'on travaille chacune dans sa technique, à sa manière, on a trouvé à chaque fois qu'il y a des processus, des manières de faire qui se rejoignent et qui concernent surtout à la manière de travailler les matières. Donc, par exemple, il y a des transformations chimiques qui sont au cours et au cœur de chacune de nos transformations. Et aussi, il y a surtout un vrai intérêt par l'empreinte, par ce qui se passe, par ce qui reste dans la surface de travail. Donc, dans mon cas, c'est le tissu, dans le cas de Marion, c'est le papier. Et il y a aussi, justement, on s'interroge par ce qui demeure dans cette surface et par ce qui s'efface. Et donc là-dedans, on se retrouve complètement.
Marion, vous êtes face à une toile ou une feuille de papier blanche. Qu'est-ce qui vous décide à lancer les premières couleurs ou le premier geste?
Alors ça peut être des intentions de sensations. Ou alors vraiment des envies de composition, des choses qui m'ont éveillée. Mais comme dit Natalia, il y a vraiment quelque chose aussi du visible ou de l'invisible. Voilà, moi j'essaye de vraiment travailler l'encre et l'eau, qui sont des médiums qui induisent la rapidité, la spontanéité et l'instantané, en fait. Avec ces matières-là, j'essaye de... C'est comme une danse, en fait, qui s'opère. Et voilà, ça peut être une envie de trame, de je sais pas. C'est très... je me laisse vraiment envahir aussi par mes recettes que je trouve dans mon laboratoire, dans mon petit atelier que je considère comme un laboratoire. Et voilà.
Et puis, il y a cette notion du paysage, hein, oui, en quelque sorte, qui apparaît surtout. Et quant à Natalia, vous êtes plasticienne, hein, vous avez été formée à l'Université nationale de Colombie.
Oui.
Et d'ailleurs, cette pièce que vous présentez rapporte un souvenir, hein, de ce pays, vous nous expliquerez lequel. Et votre démarche est beaucoup plus technique et pluridisciplinaire, hein. Vous avez ces objets en bois que vous enduisez d'encre, j'imagine. Et après, il y a des applications sur des tissus pliés, humide et des serre-joints. Donc il y a tout un concept. Comment s'élabore cette idée?
Ouais, il y a plusieurs choses.
Ouais.
Mais on peut commencer par dire qu'en effet, ça fait un bon moment que j'avais envie de travailler avec les textiles et les teintures végétales. Surtout parce que, comme vous disiez, moi, je suis plasticienne. J'ai fait une formation qui avait un approfondissement en performance. Et à chaque fois que j'utilisais mon corps, j'essayais de faire des vêtements pour pouvoir aussi exprimer avec les tissus, les vêtements, quelque chose dans l'espace. Donc, il y avait un intérêt de cet ordre-là. Et donc, ça m'a amené à dire, oh, j'ai envie aussi d'avoir un contrôle un peu plus accru sur d'où viennent les textiles que j'utilise pour faire ces vêtements qui sont vraiment quelque chose d'intuitif. Je ne suis pas du tout designer ou quoi que ce soit. Et ça, à un moment donné, ça m'a fait dire, bon, ok, je vais essayer de tendre les tissus, d'avoir un contrôle bien plus précis sur d'où vient la couleur. Et en essayant de faire ça, en commençant à apprendre, je me rends compte qu'en fait, c'est hyper compliqué. Et donc, je reste surtout sur l'exploration et apprendre comment on fait pour faire en sorte que la couleur se fixe sur les tissus. Et dans ces processus-là, un peu parallèlement, on va dire, il y a cette histoire dans mon pays qui est revenue, qui est devenue un fait d'actualité, parce bien que c'est un truc qui s'est passé, ça fait déjà quelques années. Et en ce moment, on va dire des années 2022, on commence à parler à nouveau de cette histoire. Donc c'est l'histoire des faux positifs. Et c'est une histoire c'est une histoire assez triste. Ce qui s'est passé en Colombie pendant les années 2002 à 2008 à peu près, c'est que à cause d'une décision politique, le gouvernement de l'époque, il s'est dit on va créer une espèce de démocratie qu'il a appelée sécurité démocratique, que ça veut rien dire en fait. Mais dans son idée, parce que la Colombie, c'est un pays qui, ça fait plus de 70 ans, avait un conflit. Il est encore, mais disons que ça s'est transformé. Et ces conflits ont vraiment fait que l'État et la population civile, mais aussi des groupes armés hors l'État, se confrontent. Et plus récemment, donc entre 2002 et 2008, cette sécurité démocratique a fait un peu penser aux personnes, à la population colombienne, que grâce à cette décision politique, à cette nouvelle manière de faire, on était en train de gagner la guerre contre la guérilla. Donc, on va dire, c'est très connu, surtout les FARC, ce sont des guérillas en Colombie. Et donc, l'idée donc, de ce gouvernement, c'était, on donne des chiffres, on fait les stats, des statistiques sur ça, et on fait croire à la population à travers le média qu'en fait, parce qu'on a beaucoup de morts, là, on est en train de gagner. Mais comme il y avait tellement de pression sur les forces armées pour donner des résultats, ce qui s'est passé, c'est complètement aberrant, et c'est que les militaires ont commencé à, un peu par la rousse, dire aux personnes qui habitaient dans la rue ou qui n'avaient pas de grands moyens, et ils ont commencé à leur proposer des travaux, ah oui, on a un travail pour vous, mais c'est dans une autre ville. Ils les ont trompés. Et après, ils les ont déguisés avec des uniformes des guerrilleros et ils les ont tués. Et ils les ont fait passer par des guerrilleros morts au combat. Donc ça, dans l'argot militaire, c'est ça qu'on appelle un faux positif. Et c'est que récemment qu'on commence vraiment à parler de cette histoire. Et grâce à une juridiction de paix, une espèce de juge spécial qu'on a créé pour ce type de conflits en Colombie, pour ces cas qui sont assez difficiles. Et c'est grâce à ça que j'étais déjà ici, installée en France, quand j'ai commencé à voir qu'en fait, on reparle de ça et qu'il y a une justice qui s'est faite, une justice qui essaye de réparer les victimes. Et ça m'a fait dire, bon, il faut parler de ça. Et je trouvais que ça avait du sens. Donc, c'est ça qui a inspiré ce projet. C'est un peu...
D'ailleurs, on peut le décrire, hein, ce projet. Ce sont des bandes de tissu avec une impression d'une forme. On peut préciser laquelle?
Ouais. Donc, en fait, justement, il y a cette idée, déjà l'euphémisme, donc c'est l'expression des faux positifs. On a trouvé que c'était vraiment... c'est trop bizarre de se dire que les victimes sont considérées comme des plus. Donc, et les médias ont dit sont faux positifs parce qu'en effet, ce ne sont pas des guerrilleros. Donc, c'est des faux guerrilleros. Et au lieu de dire que c'est un massacre, on a dit dans les médias, c'est des faux positifs. Donc voilà l'euphémisme, pour faire un peu en sorte que ça soit moins dur. Moi, à partir de cette image-là, ce que j'ai décidé de faire, c'est de créer l'image de ces croix, des plus, sur les tissus. Dans le processus, ce qu'on a trouvé, et dans le procès judiciaire aussi, on a trouvé que c'est à peu près 6402 personnes. Donc si on pense à la population des 10, je pense que c'est un petit peu plus. Donc c'est assez, c'est énorme. Et donc mon idée, c'était, bon, je vais faire 6402 croix pour faire hommage, rendre hommage à ces victimes. Donc initialement, je prends des tissus qui sont recyclés en coton, je les plie. C'est inspiré d'une technique de teinture végétale assez artisanale qui s'est faite au Japon. Donc je plie les tissus, je fais les croix en bois. Et c'est intéressant parce que bon, la Colombie, c'est un pays qui est assez catholique. Donc les croix aussi, il y a une relation à la mort. Donc j'ai fait cette croix qui ressemble un peu à la croix, mais c'est aussi un plus. Je plie les tissus et de chaque côté, je mets le bois. Et avec le sergent, justement, je fais en sorte que ça fait un composite. Et c'est ça que je mets dans la teinture. Donc après une décoction de quelques 1h, 1h30, on ressort les tissus pliés, on enlève les croix. Et donc la partie qui était couverte par les croix en bois, elle va rester blanche. Et tout le reste va prendre la couleur de la teinture, qui dans ces cas, c'est le bois du Campeche.
Je ne sais pas si vous, Natalia, vous avez eu une formation artistique, donc, avec l'histoire de l'art. Est-ce que vous avez eu cette notion aussi du support surface? Un mouvement artistique qui se déroulait en France fin des années 60, début des années 70, où la toile n'avait plus le support de ce châssis. Et donc, il y avait tout un processus de pliage, de teinte, qui permettait de répéter un motif sur des supports qui étaient ensuite juste étendu ou posé sur des lieux.
Ah non, c'est hyper intéressant. Ça serait voilà. Super de vraiment de prendre note parce que non, je ne connaissais pas.
D'accord. Et par vous, Marion, vous avez eu une formation également
Oui, alors moi j'ai été à l'université, j'ai fait des études en art plastique. Et ensuite, je me suis formée au maquillage artistique. Pour le cinéma, le théâtre, l'opéra. Donc j'avais un autre support qui était celui de la peau. Et ensuite, j'ai complété ma formation en art plastique par de la peinture naturelle. Donc là, une formation plutôt professionnelle avec une peintre décoratrice qui, elle, m'a donné des recettes, plus ancestrales, comme la peinture à la caséine, la peinture à la chaux. Voilà. Et donc, moi, c'est vraiment ce que j'essaye de faire dans ma démarche. C'est de naviguer, en fait, entre les techniques, entre les disciplines artistiques. Et j'explore, en fait, de cette manière-là, les recettes. Je m'en amuse et c'est toujours en fait un équilibre entre quelque chose qui est de l'ordre d'un grand lâcher-prise, de quelque chose d'accidentel et en même temps avec lequel il faut composer un équilibre pour que les choses tiennent un minimum. Il y a un côté justement de la trace et de l'éphémère qui est intéressant, mais on va dire que j'offre aussi des offres un peu plus pérennes.
Il y a aussi, vous parlez du visible et de l'invisible. Qu'est-ce qui démontre l'un et l'autre sur vos travaux à chacune
Moi, je pense que c'est quand même des... Je vois ça un peu comme des parcelles de fiction, mais mes tableaux. Donc, ça évoque beaucoup de choses et en même temps, ça reste abstrait. Donc on a l'imaginaire qui est une forme d'invisible finalement, qui est un peu engendré par le tableau.
Et puis, il y a aussi... moi, je travaille sur un papier qui est fait à base de pierre. Et alors, je ne sais pas si c'est sa particularité, mais en tout cas, un peu comme le tissu, il imprime les encres, et, ce qui fait que... quand j'efface, je peux complètement effacer un tableau et il restera une trace. Ça, c'est quelque chose que je vais explorer prochainement et que et qui sera bientôt visible aussi dans une prochaine exposition. Voilà.
Et d'ailleurs, les œuvres proposées, celles qu'on peut voir actuellement, je crois que c'est de l'ordre de 40 par 50 cm.
Un peu plus.
Un peu plus,
ouais,
même. Est-ce qu'il y a des formats beaucoup plus grands et qui demandent un traitement particulier et une autre manière de travailler? Parce que là, on aborde des quantités d'eau et de pigments à gérer.
Oui. Alors, moi, j'aime beaucoup l'idée de recycler aussi ma matière. Donc, pour des grands formats, justement, je me suis amusée à danser avec le papier. J'ai des tables que je peux redresser. J'ai des choses sur lesquelles je peux suspendre mon papier, j'ai des grosses bassines dans lesquelles je peux récupérer la matière et la réutiliser. Voilà, donc plus le format est grand ça n'empêche pas. Je module en fonction du format. Et je me suis aussi, j'ai optimisé mon atelier pour que dans un petit espace, puissent être déployées des grandes feuilles. Voilà, j'ai des espaces vraiment dédiés à chaque phase de travail. Et c'est vrai que ça contraint, mais ça oblige effectivement à avoir des types de manipulations, mais ça permet aussi de créer des nouvelles formes grâce à ces manipulations. Le fait d'avoir fait glisser sur le papier la matière, je vais avoir des formes qui n'auraient pas existé autrement.
Natalia, vous vouliez dire ?
Et dans mon cas, je pense que il y a plusieurs choses. Il y a en effet un côté qui est très lié à ce qui s'exprime sur le tissu, mais il y a aussi un côté très conceptuel du fait que cet euphémisme, ce que j'essaye de montrer justement, c'est rendre visible une histoire qui déjà en Colombie, elle était un peu cachée. On n'en parlait pas trop et même moi, j'aime bien dire que c'est grâce aux mères, et surtout à des femmes, et un peu comme c'est passé en Argentine, et comme c'est passé au Chili, quand il s'agissait de ces moments de dictature, on a eu des événements très, très durs, des disparitions. Pareil en Colombie, c'est les femmes qui se sont mis ensemble et qui ont parlé et qui ont essayé de dire au monde, écoutez, nos enfants ne sont pas là et ils sont disparus et on ne comprend pas qu'est-ce qui s'est passé avec eux. Et donc là, dans ces projets en particulier, il y a aussi ça. Conceptuellement, pour moi, c'était important de montrer quelque chose qui était complètement caché, qui fait partie de l'histoire et qui est méconnu. Et surtout ici, pour moi, il y avait du sens aussi de parler de ça en France, que c'est l'endroit où j'habite maintenant. Et ça m'a fait aussi comprendre qu'ici, il y a des histoires qui se ressemblent par rapport, par exemple, à la colonisation en Algérie et à d'autres processus de colonisation. Donc ça m'a fait aussi retrouver des traces. Donc de mon côté, il y a aussi espace un peu conceptuel de comment faire visible ce qui paraît simplement une actualité, un événement passé, et comment on fait mémoire de ça et comment on construit mémoire collectivement de ça. Donc ça, disons que pour moi, ça aussi, ces niveaux-là.
Et d'ailleurs, cette œuvre exposée déjà en 2024 dans le cadre des GEMA, qui s'intitulait « Traces fantômes ». Vous étiez en collaboration déjà toutes deux.
Oui.
Et cette exposition, ça a donné suite aussi à une présentation à la Casa Colombia à Paris, dans le cadre des Jeux Olympiques. Donc, il y a eu un public venu voir ces œuvres.
Ouais.
Est-ce qu'il y a eu un public colombien avec qui vous avez pu en parler et est-ce que ça les a touchés?
C'était super intéressante comme expérience, justement parce que le projet est né ici à Die. et que principalement j'avais touché un public d'ici. Et ça, c'était super, franchement. Et je ne m'attendais pas à cette... j'ai trouvé beaucoup de résonances, beaucoup de commentaires qui m'ont fait ouvrir un peu le regard sur cette histoire par rapport à la France. Et après, il y a eu, en effet, cette exposition en été. Pour moi, c'était génial parce que c'était principalement dans un contexte un peu festif. Donc, c'était un peu bizarre de parler d'une histoire si difficile dans un contexte où on est en train de fêter le fait qu'il y a des sportifs et des sports qui se présentent, qu'on est en train de faire plutôt la fête. Mais ça a été hyper intéressant parce que le public était super réceptif. Et j'ai trouvé les conditions de montage... On était très compliqué, c'était un espace ouvert dans un endroit où à la fois on présentait des conférences, des vidéos, des démonstrations, des plein de choses. Et donc ça a fait que j'ai dû monter les tissus comme s'il s'agissait des auvents qui couvraient un peu l'espace entre les arbres. Ça a fait vraiment, c'était très intéressant parce que moi j'ai un peu agi, j'ai fait le montage par rapport aux contraintes de l'espace. Et disons que j'avais déjà, je savais que l'œuvre, le projet, il a déjà une forte charge émotionnelle et des concepts que je me suis dit, bon, ok, je fais simplement ce que l'espace me demande. Mais le public, ça a été hyper intéressant parce que pour eux, il y avait beaucoup de sens. Du fait de mettre les tissus par-dessous des têtes des assistantes. Parce qu'il disait, c'est une histoire qui se passe ailleurs. Et pour les Colombiens, ils savaient que c'est passé en Colombie. Et donc, il disait, c'est intéressant parce que ce sont des choses que si on ne connaît pas, on continue nos vies. Donc, ça nous passe par-dessous de nos têtes. Et il trouvait qu'il y avait beaucoup de sens de placer ça en hauteur. Et cette relation entre le ciel et aussi l'image des bandeaux de tissus qui rappelait ça, qu'il y avait à la fois, on voyait les tissus, mais à la fois on voyait le ciel. Donc il y avait un côté où les gens disaient, c'est comme ça qu'on ça arrive, ce type d'histoire. Il y a une partie qu'on connaît, qu'on arrive à avoir un peu d'informations parce que les médias, parce que les artistes, parce que voilà. Mais il y a toujours la possibilité de s'échapper de ça parce que peut-être on trouve que ça ne nous concerne pas ou ça ne nous intéresse pas. Donc j'ai eu des retours très, très intéressants. Et de la part des Colombiens, ils étaient très contents de pouvoir entendre parler de ça ailleurs. C'est bien que ça se sache ailleurs, pas qu'en Colombie, ça nous concerne tous.
D'ailleurs, en Colombie même, il y a une démarche artistique aussi qui s'opère pour dénoncer ces faux positifs. Ça consiste en des peintures murales, je pense.
Oui, et justement, c'est peut-être un peu la transformation que la chose un petit peu nouvelle que j'ai montrée cette fois au Varaki dans cette installation. C'est en fait, ça vient aussi d'une contrainte. Il fallait montrer l'installation dans un espace qu'ils sont dédiés aux travaux des artistes. C'est un mur. Et avant, je l'avais placé plutôt dans l'espace. Et il fallait traverser l'espace avec les tissus. Donc ça faisait vraiment une présence dans l'espace. Et cette fois-ci, je me suis dit, il faut le faire sur un mur. Donc, j'ai pensé tout de suite à mélanger le tissu avec l'espace, donc faire en sorte que ça ressemble à une espèce de décoration de l'espace. Et que si on s'intéresse, si ça appelle le regard de la personne qui est là, peut-être qu'il veut aller chercher un peu plus d'informations. Donc, j'ai placé des photos, justement des événements, des rassemblements des gens en Colombie qui ont décidé de faire des graffitis, des murs sur les roues des différentes villes pour rappeler et pour faire un peu donner suite à cette à ce qui s'est passé par rapport au faux positif, parce que justement, ce sont les mères qui sont parlées, les mamans de toutes ces personnes victimes qui ont parlé de ce qui s'est passé. Et en fait, à un moment donné, ils sont trouvés récemment, l'année dernière, justement, fin d'année, ils sont trouvés des restes des personnes dans un endroit où, à Medellín, qui est une des villes les plus, on va dire, violentes et compliquées en Colombie. Ils sont trouvés des restes des personnes dans un endroit que les mères de ces personnes avaient dit « il faut chercher là-bas ». Et le gouvernement n'avait pas voulu chercher. Finalement, et avec cette justice spéciale pour la paix, ils sont dédiés à un groupe pour aller chercher. Ils sont trouvés. Et donc, les mères et les victimes ont écrit un grand mur, et ils ont dit les mères ont eu raison. Ils avaient raison de dire ça. Et la mairie, le maire de cette ville, il a décidé tout de suite d'effacer les murs. Et face à ça, dans les autres villes de la Colombie, on a fait la même chose. Et on a commencé à écrire sur les murs que les mères ont eu raison, un peu en soutien de ces victimes, mais aussi pour montrer que ça ne va pas de nier la réalité, ça ne va pas d'effacer, de faire semblant que rien ne s'est passé. Donc ce sont des manières, c'est très beau parce que c'est en effet, il y a un côté artistique, et des rassemblements et des manifestations non violentes pour montrer ce qui se passe. Et j'ai trouvé qu'il y avait des résonances avec le fait que j'ai fait un mur ici. Voilà.
Marion, lors de la conception ou l'élaboration de vos peintures, est-ce qu'il y a la ligne d'horizon ?
C'est intéressant, ça. Eh bien, pas forcément. Pas forcément. Alors là, sur l'expo, oui, on la voit. Mais ce n'est pas forcément le cas à chaque fois. J'avais fait une expo qu'on avait pu voir à la Corderie, où là, c'était plutôt des choses qui ressemblaient à des totems. Voilà, avec une matière qui se superposait. C'est pas quelque chose qu'on retrouve systématiquement, en tout cas dans mon travail, et qui est voulu. Après, l'évocation au paysage, elle est quand même très 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 présente. Tout ce qui est de l'ordre du minéral, du végétal, des êtres du vivant, en fait, hein, ou non d'ailleurs, parce qu'il y a des choses qui peuvent être assez cosmiques aussi dans mon travail. Voilà, c'est toujours évoquer des choses sans forcément les représenter. Et là, pour le baraki, il fallait que les couleurs aussi répondent au travail de Natalia. On a cherché le lien justement dans cet invisible, on a cherché le lien dans la couleur, dans la matière, dans les choses qui résistent ou non. Et puis le petit clin d'œil du titre de l'exposition, Pierre de Cœur, il était... il nous a plu parce que moi je travaille sur des choses plutôt minérales, Natalia sur la thématique, la puissance du propos aussi politique, Pierre de Cœur, un cœur de pierre, il y avait un jeu de mots aussi sur ce qui se passe là-bas. Et puis c'est aussi le nom d'un vin qu'on retrouve au bar à Quille. Il est dans la carte, donc si vous voulez goûter.
Ouais.
Il y a les aléas, hein, de l'eau, du fluide, oui, avec l'emportement de pigments sur la feuille. Ça, c'est donc la part de hasard, en quelque sorte. Est-ce que vous souhaiteriez aussi intervenir beaucoup plus radicalement sur ces images, par un tracé ou une représentation ?
Justement, j'aime bien en fait ce côté poreux. En fait, j'ai l'impression d'être comme une équilibriste entre l'accidentel et la maîtrise, entre un lâcher prise et sans arrêt composé avec l'accidentel. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a une intervention de la main,
je suis peut-être moins surprise. J'aime bien l'idée de surprise aussi. Et à force de travailler ces recettes et ces accidents, en fait, je crée des compositions qui deviennent beaucoup plus maîtrisées aussi. Donc, en fait, c'est là où mon intervention, elle devient un peu plus... Enfin, voilà, ma recherche n'est pas que pur accident. Elle est le constat et l'observation de toutes ces années de recherche, avec toutes ces collections de formes qui jaillissent de toutes ces recettes picturales. Et à partir de là, moi, je peux m'amuser dans mes compositions. Donc, après, je peux faire dire aussi ce que je veux à la matière. Je peux... rattacher toutes ces formes abstraites à un discours peut-être qui serait plus politique aussi à un moment donné. Enfin voilà, cette matière peut servir pas mal de propos. En tout cas, là, l'idée était d'être vraiment dans une espèce d'osmose aussi avec la matière. Il n'y avait pas forcément de discours derrière. C'était vraiment un grand moment de liberté. Enfin, pour moi, c'est un grand moment de liberté. C'est un moment, voilà, où je me permets, en fait, beaucoup de choses. Et c'est un peu comme dans le quotidien, entre trouver son équilibre dans tout ça.
Parfois, certaines peintures évoquent ça me fait penser à des œuvres chinoises, par exemple. Ouais. Ces montagnes dans la brume, il y en a certaines. Ouais. Et il y a aussi cet artiste, Max Ernst, qui revient à la vision de ces images. Il y a des artistes qui vous ont inspiré justement dans ce travail.
Alors il y a des personnes, il y a Tacita Din qui est une artiste qui travaille vraiment les paysages aussi abstraits, des très très grandes toiles. Il y a, alors j'ai le prénom mais j'ai plus le nom, Abdelkader qui expose pareil des encres, des très grandes encres. De Chine. Alors oui, j'ai ça n'a pas été ma ressource culturelle de mon enfance, l'Asie. Et pourtant, je retrouve beaucoup de choses qui m'attirent et qui me plaisent dedans. Alors, je m'y intéresse un peu malgré moi, parce que je découvre, parce que c'est pas forcément mon terrain de connaissance. Voilà. Mais oui.
Vous êtes donc toutes deux colocataires d'un atelier. L'ambiance, parfois, est musicale ou c'est le silence ?
Alors, on partage l'atelier. En fait, c'est une petite maison de ville qui a une pièce par étage. Et donc, au premier étage, avant, on avait une amie qui était sérigraphe qui est partie. Moi, je suis au milieu, au deuxième étage. Et au-dessus de moi, il y a l'espace de Natalia. En fait, on a des parties distinctes, mais on a aussi des petits rendez-vous où on boit le thé, on discute, voilà, de tout, de rien ou de nos pratiques. Et pour ma part, ça peut, il peut y avoir de la musique. Il peut y avoir de la musique, mais j'ai du mal, par exemple, si j'écoute des podcasts ou ce genre de choses, à me concentrer. Donc, ce sera plutôt des choses, plutôt des sonorités, plutôt de la musique pour moi, pour ma part.
Mmh. Et vous, Natalia, la cumbia?
Ah ouais, certainement.
La cumbia, c'est un vaste domaine aussi. Un peu, on pourrait parler de la notion du rap qui englobe tout un tas de styles. La cumbia également, je crois. Hein, il y a toute une manière de le présenter.
C'est hyper intéressant. En Colombie, on a une grande diversité grâce au fait qu'il y a des communautés, des Noirs qui sont arrivés des différents pays de l'Afrique et qui sont arrivés surtout aux côtes, parce que c'était comme ça qu'ils sont été transportés par des grands navires. Et en fait, justement, le fait qu'il vient de différents pays, il y a les côtés, c'est hyper intéressant. Il y a un côté où ça reste quand même très lié aux percussions des différents pays d'Afrique. Et par exemple, si on voit ce qui se passe au nord de la Colombie, donc c'est surtout des rythmes qui sont très, très attachés à justement les percussions très fortes. C'est là-bas où on dit qu'il y a la cumbia. Mais c'est hyper intéressant parce qu'il y a aussi un mélange avec des sonorités indigènes. Donc c'est vraiment ça qu'on appelle la cumbia. Et après, il y a le côté pacifique où on parle plutôt des curulao et d'autres types de rythmes qui viennent aussi du fait que les noirs qui sont arrivés à ces côtes-là, ils savaient d'autres sonorités. Surtout, ils utilisaient un instrument qui s'appelle le balafon. Et ça fait une autre chose. Et donc ça, il y a aussi un côté un petit peu différent. Mais la cumbia, oui, en effet, c'est tout un univers. C'est vraiment...
Ça peut aller de l'humour jusqu'à la dénonciation. Les écritures, les textes, avec malgré tout une musique plutôt dansante, joyeuse.
Tout à fait. Et il y a complètement un côté où, je pense que ça se passe encore à chaque fois. Là, on dit qu'on s'est dit en Colombie que c'est de là qui vient la cumbia. Mais si on regarde toute l'Amérique latine, il y a vraiment une résonance de cette cumbia partout. Donc, du Mexique à l'Argentine, et que c'est reprise. Et là, maintenant, et justement, il y a des mélanges avec le rap où on utilise justement pour dénoncer, pour parler de situations. Mais la raison de ça, c'est qu'au début de ça, franchement, je pense que c'est la manière de résister des palenques, des territoires noirs qui essayaient de garder leur culture associée à l'Afrique, de garder leur connexion. Donc, ça reste. C'est vrai que ça reste à travers le temps.
Pour finir, vos ateliers, est-ce que l'amateur d'art peut visiter votre lieu d'activité, ou alors il y a cette part d'intimité peut-être aussi que vous préservez?
C'est un peu comme tout travail, en fait. Je pense que on vient pas forcément visiter les... Bon, alors c'est très attirant, l'atelier. Il y a un côté, on a envie de savoir, on a envie de voir, ça fait un peu rêver. Ça fait rêver. Moi, je sais qu'on peut passer, mais en me demandant, en me prenant un rendez-vous, parce que c'est vrai que ça peut être délicat, ça peut être un moment où on est vraiment concentré et c'est complexe. Mais en soi, oui, si on prend rendez-vous, on peut tout à fait venir nous rencontrer avec plaisir.
Tout à fait.
Et puis, chacune de vous a un site internet, donc nataliazamudio.com.
Oui.
Et puis fontainemarion.vixit.com également. Et là, je pense qu'il y a moyen de correspondre et de voir ce qui est possible de faire ou de découvrir. Eh bien, écoutez, je vous remercie toutes deux, en tout cas, d'être venues sur Air d'Ivoire pour nous parler de cette exposition. Donc, Pierre de Cœur, encore jusqu'au 15 mai, au Baraki, à Die.
Tout à fait. Merci.
Merci pour l'invitation.
Merci aussi, oui. Et est-ce que vous auriez peut-être une proposition musicale, ou alors je m'en occupe?
Ça dépend. Si vous voulez écouter de la cumbia, je pourrais en avoir quelques-unes, oui.
Ok. Vas-y, c'est...
Ouais, donc ce sont des amis à moi. Et elles sont un groupe qui s'appelle... comment elle s'appelle? La Perla. Et donc ça pourrait être une de ces chansons qui mélange le bullerengue, qui c'est une forme de cumbia, pas exactement comme la cumbia. Et elle s'appelle Bruja. Voilà.
La sorcière.
La sorcière.
La sorcière.
Pour ne pas faire de jalouse, Marion, peut-être une proposition que j'insérerai en début d'émission.
Je suis très mauvaise à ça. Non, je ne sais pas. C'est vrai, j'ai pas de... Là, comme ça, ça ne me vient pas.
Mais d'accord.
Mais c'est pas...
Je ne sais pas. Je mettrai Jean-Michel Jarre, alors. Non.
Je ne sais pas.
Voilà, je trouverai quelque chose.
Oui, oui.
Voilà.
Je fais confiance, voilà.
Eh bien, merci et bonne soirée, alors.
Merci. Porque hacía lo que quería.
que salía de noche por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea bandida. Mamá, a mí me decían la bruja. Mamá, a mí me decían la bruja. Salía de noche por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea bandida.
¡Bruja!